Bienvenue à Sur la ligne, cette émission tout tennis. Cette semaine, on revient évidemment sur Leila Annie Fernandez qui a défendu son titre avec brio à Monterey. Défaite à la Coupe Davis, mais Alexis Gallardo a impressionné. On parle aussi de quelques controverses. Serena Williams a commenté le cas Alexander Zverev et les joueurs russes sont forcés de renier leur identité nationale sur Instagram pour ou contre. Nicolas Richard, bonjour. Hugues Léger, bonjour. Les gars, êtes-vous prêts?
Oh que oui!
C'est parti!
Salut, salut les gars, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Sur la ligne. Nicolas Richard en mode paralympique toujours.
En mode paralympique toujours, il y a eu de grands moments, des moments plus déchirants, notamment une fille que tu connais, Fred Turgeon, qui a dû renoncer à ses Jeux paralympiques. Mais oui, beaucoup de tennis, beaucoup de golf, beaucoup de paralympiques. Fait qu'encore une fois, une semaine chargée et comme on les aime.
Ouais, ben juste dans le monde du tennis, honnêtement, on devrait être dans une période un peu plus morte. En tout cas, au Canada, c'est pas le cas. Là, il s'en passe pas mal des choses. Hugues, d'habitude, je suis au Montville à tes côtés. Je vais m'ennuyer de toi aujourd'hui puisque j'avais des obligations tout près de la maison. J'étais en entrevue avec la sympathique Elisabeth Manta, d'ailleurs, qui est devenue virale. Je tiens à la féliciter. Première arbitre féminine à avoir arbitré un match dans la LHJMQ. C'est une fille super sympathique, elle est vraiment cool. Alors, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas à tes côtés. Comment ça va à l'Hôtel Montville?
Ben écoute, dans cette semaine de la journée de la femme, qui est demain le 8 mars, c'est une très bonne nouvelle ce qui se passe avec Elisabeth Manta. Mm-hmm. Donc, ça me fait plaisir de l'entendre. On va parler un petit peu aussi de la journée de la femme et de ce que ça veut dire pour le tennis au Québec et au Canada, parce qu'on a du très beau contenu qui va sortir sur ce sujet-là demain. Moi, je regarde la rivière qui monte derrière chez moi avec la pluie qu'on a depuis hier, puis je suis un peu inquiet que ça déborde, mais jusqu'à date, ça va bien. Mais ouais, c'est un très beau week-end, on va parler de notre super Leila qui nous en a donné qui nous en a mis plein les yeux hier soir.
Ouais, ça a été en tout cas pour le moins intéressant, là, ça c'est certain. Tu fais bien de souligner, je comprends quelques secondes pour souligner la journée de la femme. Hugues, on va diffuser peut-être un extrait un peu plus tard dans ouais. L'émission, mais est-ce qu'on peut révéler que tu travailles sur certains projets en collaboration avec Tennis Canada? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu d'informations là-dessus?
Oui, il y a un très grand chantier entre Tennis Canada et la Banque nationale pour l'avancement du tennis au féminin, de surtout faire en sorte que les jeunes filles persévèrent dans le sport. On sait que plusieurs arrêtent à l'adolescence, mais on en a profiter pour faire une table ronde à Montréal et à Toronto avec des joueuses actuelles et des pionnières du tennis pour discuter des sujets importants pour elles dans la persévérance, dans l'équité homme-femme aussi au niveau du tennis. Évidemment, parler de la Billie Jean King Cup, ce que ça veut dire aussi au niveau de la participation, puis comment on peut se servir de cette plateforme-là pour encourager les jeunes filles à jouer. Vraiment deux très beaux vidéos là, d'environ 45 minutes qui vont être sur les réseaux demain. À suivre, là, mais c'est vraiment un projet hyper intéressant qui va se développer tout au long de l'année avec Tennis Canada et la Banque nationale.
D'ailleurs, tu as préparé un extrait pour nous, on peut l'écouter.
Je me suis déjà fait dire par un entraîneur, « Ah, toi, ça va être plus difficile de réussir parce que tu as d'autres choses pour réussir dans la vie et tu vas avoir plus de distractions parce que tu es belle. » Tu sais que c'était... Je pense pas qu'on aurait dit ça à un gars.
Bien, hâte de voir ça. En tout cas, je vais l'écouter. C'est très cool que tu travailles sur ces projets-là, Hugues. Honnêtement, t'es vraiment, je le dis, puis t'as déjà été mon patron. Je pense que t'es la bonne personne pour faire ça. T'es un gars qui a une vision 10 ans en avant de tout le monde sur comment faire les médias. Et c'est la raison pour laquelle je suis bien heureux de pouvoir travailler avec toi. Et c'est une autre belle preuve, ce projet-là. Et t'as pu jaser avec Bianca. T'as été chanceux. Un des premiers à revoir
ouais.
Bianca publiquement.
C'était
quoi ton feeling? T'as-tu le droit de le dire?
C'est ça, je vous en parlais un petit peu hors d'onde. Écoute, je l'ai trouvé vraiment bien dans sa peau, relax. Elle a envie de jouer, donc elle repartait après notre tournage pour l'Arizona pour commencer son entraînement printanier. Moi, j'ai vu une Bianca très sereine. Donc, j'avoue que c'était... ça m'a fait plaisir d'avoir comme ça. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Elle était vraiment très bien. Donc, je pense que c'est prometteur pour les prochaines semaines pour son retour.
Est-ce qu'elle est toujours aussi sympathique? Moi, c'est une fille avec laquelle j'ai adoré travailler. Ah ouais. Quand elle était chez les juniors, elle était incroyablement fine. Oui. C'est le genre de fille, tu pouvais t'accoter sur le bord de la clôture puis jaser de tout et de rien avec cette jeune femme-là. Est-ce que c'est la même jeune femme que tu as retrouvée?
Oui, oui, complètement. Écoute, c'est une gagnante du US Open quand même, là, d'un grand chelem, mais ça reste quelqu'un de très, très abordable, hyper sympathique. Elle est chaleureuse. C'est une fille extrêmement approchable, si je pouvais utiliser ce mot-là. Donc, c'est vraiment une personne de très grande qualité.
Ouais, elle n'a pas 20 titres, mais les titres qu'elle a sont gros. Ça,
en effet.
Ça, c'est... Dont celui qui s'en vient à Indian Wells, ça va être bien intéressant. On va pouvoir en parler. Mais messieurs, avant qu'on arrive à Indian Wells, beaucoup de choses se sont passées dans la semaine passée. Et comme c'est le cas, ben, on va faire notre résumé de l'actualité. À commencer par la nouvelle du jour, ben, la nouvelle façon de parler. Leila Annie Fernandez défend son titre à Monterey. Messieurs, j'ai fait des recherches. J'ai contacté quelques personnes. C'est pas évident là, de trouver ces statistiques-là, mais selon les personnes à qui j'ai parlé, ce serait la première Canadienne à défendre son titre. Évidemment, ça s'était fait du côté des hommes avec Milos Raonic. Il avait déjà défendu son titre à San Jose deux fois plus tôt qu'une, d'ailleurs. Mais Leila, première Canadienne possiblement à défendre oui. son titre. Phénoménal. Nicolas Richard, première impression sur cette victoire. Je vais dire spectaculaire parce que le match nous a donné beaucoup d'émotions, mais également aussi spectaculaire parce que ben, c'est un titre pour Leila Annie Fernandez.
Oui, donc Leila qui vainc Camila Osorio, la Colombienne, 6-7, 6-4 et 7-6. Et j'ai envie de comparer ça un peu, ce match-là, à un film. Parce que ça a été, on dirait que ça a été très, très long. 3 heures, on le sait, du côté féminin, c'est un marathon. Et il s'est passé tellement de choses, des rebondissements, des moments inattendus, une péripétie, une fin hollywoodienne. Puis on en parlait un petit peu, les gars. Oui, Leila a gagné ce titre-là, elle l'a mérité. Mais il faut être honnête, je pense, il faut être complètement lucide. Ça n'a pas été un grand match technique pour Leila. Elle a commis beaucoup d'erreurs, elle a laissé filer de grandes avances. Bien sûr, elle a combattu jusqu'à la toute fin, elle a sauvé 5 balles de match. Ce qui est vraiment pas rien. Pour ça, je pense que ça prouve encore à quel point c'est une fille combative qui ne lâche jamais. Mais à un moment donné, son service ne tenait plus. Ses attaques ne fonctionnaient plus. Ses montées au filet étaient un petit peu chaotiques. Donc oui, pour Leila, titre acquis. Elle le défend. Superbe. Ça commence bien l'année après un début difficile en janvier. Mais il faut le dire, ça n'a pas non plus été un match parfait pour la Québécoise.
Ouais, ben faut pas oublier que c'était pas, c'est un début difficile, là, mais pas... Je veux dire, c'est pas catastrophique non plus là, dans le cas de Leila Annie Fernandez. Hugues, premier commentaire sur ce titre-là?
Ben, écoute, ça a été un match. Moi, j'arrive un peu tard dans le premier set pour suivre le match. C'est 4-1 pour Leila. Écoute, ça va être une balade dans le parc. Ça se passe très bien. Mm-hmm. Et tout d'un coup, le match a pris une autre tournure. Par contre, c'est le genre de victoire quand on joue pas super bien. Sa première balle, comme disait Nico, passait pas très bien à Leila. Elle faisait son plus haut pourcentage de points quand les points se terminaient rapidement. Et Osorio a bien compris ça. Elle a commencé à essayer de la faire jouer un peu. Et Leila a commencé à faire des erreurs à ce moment-là. Mais ça a été un match compliqué, mais qui est un bon exemple de trouver une façon de gagner quand ça va pas super bien. Puis elle a réussi à le faire. Et ça, c'est le signe d'une grande championne. Écoute, elle sauve 5 balles de match aussi. Il faut le mentionner. Il faut quand même le faire. Cette panne de courant à la fin du troisième set, au début du tie-break. Écoute, il s'est passé tout durant ce match-là. Moi, je pensais que c'était pour être bouclé en 1 heure. Ça a duré 3 heures. Mais encore une fois, c'est une victoire, je pense, qui est ultra satisfaisante et qui est forte d'apprentissage pour Leila, qui pourrait mettre à profit pour la suite. Camila Osorio, c'est pas une joueuse facile à jouer. Elle se nourrit, justement, des moments un peu awkward. Elle va sortir des balles très hautes, très courtes, beaucoup de slice. C'est une joueuse compliquée à jouer. Donc, chapeau Leila d'avoir trouvé une solution pour aller chercher son deuxième titre à Monterey. C'est une belle grande victoire pour elle et tout le monde est content aujourd'hui.
Et elle a été chanceuse. Façon de parler, parce que le tableau s'est un peu ouvert. T'sais. Il y avait des filles comme Madison Keys puis Elena Svitolina dans ce tableau-là.
Madison Osorio a battu quand même. Elle a quand même battu Svitolina Osorio. Donc,
oui, exact.
Elle était méritante.
Oui, tu fais bien de le souligner. Il y avait, comme je disais, Madison Keys dans son parcours, mais Madison Keys n'a pas avancé beaucoup. Ce qui était une excellente nouvelle, parce que c'était peut-être une des joueuses qui jouait le mieux depuis le début de la saison, Madison Keys. Messieurs, je ne sais pas si vous avez eu le même feeling que moi. J'avais de la misère à savoir la foule était de quel côté hier soir. Est-ce qu'elle était du côté de Leila? Est-ce qu'elle était du côté d'Osorio? C'est quoi votre feeling?
Ben, je vais y aller. La foule m'a apparu assez clairement du côté de la Colombienne. Là. Donc, c'était. Je pense que les gens aiment bien Leila, mais je pense qu'il y avait une affinité plus proche avec Camila Osorio hier. Donc, la foule me semblait du côté de Camila assez clairement. Là.
Oui, mais quand même, la foule avait l'air d'avoir adopté, mine de rien, Leila, parce qu'on a vu dans son discours d'après-match, les fans scandaient son nom. Elle a même dû arrêter de parler parce que les gens criaient trop. Donc oui, je pense qu'en cours de match, ben, tu sais, en vérité, les gens prennent un peu toujours pour les négliger. Je pense que dans le milieu du tennis et dans le monde du sport en général, c'est une loi qui s'applique. Mais ça fait deux fois qu'elle gagne là. Les organisateurs avaient l'air vraiment contents que Leila l'emporte aussi, faut le souligner. Je pense que c'est un beau visage pour le tournoi de voir qu'une fille top 20 qui pourra devenir assurément top 10 a gagné deux fois puis a eu ses deux premiers titres à Monterrey. Je pense que pour le tournoi, c'est très, très bon. Une fille en plus latine comme Leila. Mais oui, en fin de match, je pense que ça s'imposait. Les gens étaient heureux de voir Leila. Tout le monde aime Leila. Je vois pas pourquoi quelqu'un n'aimerait pas cette joueuse-là qui est tout à fait extraordinaire à tout point de vue. Mais oui, en cours de match, c'est évident que la foule était pour la Colombienne.
Elle a du Nicolas Richard dans le nez. Elle est extraordinaire à tout point de vue.
Oui!
C'est là que tu dis merci.
Merci, Alex.
Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On est comme ça, nous, on s'aime en équipe. Ce que j'aime, messieurs, là, de cette victoire-là, moi, si on se transporte il y a un an, bon, Leila n'avait pas fait de finale au US Open. Elle était encore un espoir. C'était une belle victoire, mais ça restait un espoir, une étoile montante, si on veut, du tennis. Un an plus tard, avec toute la pression qu'elle a d'être finaliste au US Open, d'être également des commanditaires. Hier, là, Lululemon est affiché, Morgan Stanley est affiché. C'est des gros commanditaires, là, on sait, et tous les autres commanditaires, avec toute la pression que ça vient, et en plus du fait que les joueuses l'attendent maintenant, elle défend son titre. À mon avis, à moi, c'est une grande victoire pour le contexte dans lequel elle a été faite. Est-ce que je me trompe?
Oui, oui. Puis écoute, je le disais aussi, elle a démontré beaucoup de caractère là, hier. Caractère de championne, c'était pas évident. Là. Elle s'est énervée une couple de fois. Il y a l'histoire de la panne de courant qui vient déranger un peu. Il y a eu un call un peu douteux sur deux bons potentiels là, sur une balle de Osorio. Donc, elle a montré quand même beaucoup de maturité là hier au niveau de son match. Encore une fois, beaucoup de positifs qui ressortent au-delà du fait qu'elle a gagné un titre, évidemment.
Il faut le dire aussi, les gars, je pense que ce qui a aidé Leila, c'est qu'elle affrontait une fille qui était exactement dans la même position qu'elle il y a un an. C'est-à-dire une joueuse prometteuse qui a battu des gros noms et qui participait à une de ses rares finales. Donc, je pense qu'elle a su saisir l'occasion et elle s'est dit « Comment je faisais il y a un an pour jouer de cette façon-là? » Donc, je pense qu'elle a pu appliquer ce qu'elle a fait il y a un an pour se mettre dans la tête et dans l'esprit de la Colombienne. Et je pense que ça l'a aidé parce qu'il faut le dire aussi, Osorio, je trouve qu'hier, elle a été une éponge. C'est-à-dire qu'on la sait, bon, on l'a vu hier, là, c'est une fille qui est douée, qui a un bel avenir, mais tu sais, on savait qu'elle n'avait pas une grande variété de coups. Elle n'avait pas une grande puissance. Son deuxième service n'était pas extraordinaire, mais hier, elle a tout pris ce que Leila lui offrait pour lui retourner. On l'a vu, Hugues, tu l'as dit à 4-1 quand tu es arrivé. Là, Osorio a commencé à mettre de la vitesse, à mettre de l'appui dans ses balles, à bien appuyer ses services. Donc, je pense qu'elle s'est nourrie de ce que Leila lui offrait. Ça a fait lui jouer un tour, mais je pense que Leila, ce qui a fonctionné, c'est qu'elle connaissait la situation dans laquelle se trouve Osorio.
Ouais, ça a été un bizarre de match. Tu fais bien de le dire. Là. Ça a vraiment. Comme Hugues le disait, bon, moi, je me demande encore comment elle a échappé le premier set, là, honnêtement. Tout semblait fonctionner au premier set. La sortante semblait donner toutes les misères du monde à Osorio.
Alex, c'est souvent le cas quand on joue contre un gaucher ou une gauchère. Là. Mm-hmm. Ça prend une couple de games avant que tu t'ajustes aux effets. Et je pense qu'Osorio, après justement 3-4 jeux, elle a réussi à lire un peu mieux le mouvement de la balle de Leila.
Oui, puis c'est une fille, Marie-Ève Pelletier en parlait hier, c'est une fille qui doit avoir un taux de première balle très élevé parce que ce n'est pas la plus puissante en première balle, Leilani Fernandez. Alors, pour qu'elle soit vraiment efficace, il faut qu'elle serve au-delà des 70% qui, pour le commun des mortels, est un taux presque phénoménal là, quand tu dépasses les 70 %. Mais pour le style de jeu de Leila, elle doit être un peu plus élevée que ça. Et hier, bon, en même temps, soulignons-le, en dépit du fait qu'elle était en deçà de ça une bonne partie du match, elle a quand même réussi à gagner. Et ça, c'est la preuve d'une grande championne. Et est-ce que vous avez travaillé votre espagnol, messieurs, à la fin? Est-ce que vous avez pu comprendre les sages paroles de Leila Annie Fernandez en espagnol?
Je remercie Señora Scala et Bédouani au secondaire de m'avoir donné quelques outils pour en secondaire 1, 2, 3. L'accent mexicain est quand même assez redoutable là, parmi les... je veux dire, le colombien, là, parmi les accents les plus difficiles, l'Amérique latine en est un. Là. Mais Leila, je veux dire, c'était assez compréhensible. Là, ça a été, puis en réalité, on sait un peu ce que les filles vont dire. Veux pas, les gars, on sait. On a tellement écouté le tournoi de tennis qu'on comprend à peu près ce que les filles disent. Je remercie leur équipe, remercie les organisateurs, félicite l'adversaire. C'est à peu près tout le temps le même principe. Mais tu sais, on le répétera jamais assez. Ça, c'est une carte tellement importante, je trouve. Puis Hugues pourra en témoigner là, pour Leila d'être trilingue comme ça. On l'a vu hier, Monterrey, les gens au Mexique l'aiment beaucoup. Elle a des commanditaires aussi qui sont de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale. C'est tellement une carte importante pour elle. Elle a tout ce qu'il faut. Puis de s'exprimer comme ça dans trois langues parfaitement, c'est fantastique pour elle. Puis ça peut lui ouvrir tellement de portes.
Oui, elle est tellement à l'aise. Puis on voit qu'elle s'illumine aussi quand elle parle. Elle communique très bien avec la foule. Elle a vraiment un sacré talent pour ça. Puis effectivement, c'est un atout au niveau de ses commandites à plein niveau. Là, le fait qu'elle parle trois langues, mais aussi, encore, j'en ai déjà parlé au niveau de sa personnalité, son style de jeu et comment communique avec les gens. Puis effectivement, c'était assez simple à comprendre. Ce qui était plus compliqué, c'était les organisateurs et les sponsors. C'était interminable. C'était assez rigolo. J'ai compris que c'était un beau trophée artisanal. Et je pense qu'il remerciait l'artiste qui a fait le trophée. Mais ça a été une longue remise de trophée après un très long match.
Ah, mais c'est à l'heure de gloire, comme Alex disait, de l'organisateur. Il fallait laisser sa place. Il était prêt pour son discours. Il était bien exact. Coiffé, bien habillé, parfumé. Il fallait laisser la place, les gars. Là.
On ne dira pas tout ce qu'on a fait dans notre conversation privée. Il y a des choses qu'on ne peut pas... révéler. Peut-être qu'un jour, on fera ça, là, on montrera notre conversation privée aux gens, voir un peu c'est quoi la dynamique quand on écoute un match, toute la gang ensemble. Ça peut quand même être intéressant. Et je veux rappeler, messieurs, Leila a d'abord mis la main sur une bourse d'à peu près 30 000 $ ce qui sera la bourse de la gagnante, à peu près, à Grêmby également. Et on parlait de Svitolina, on parlait de Madison Keys. C'est un tournoi de la même grosseur que ce que vous verrez à Grêmby. Alors, quand on disait que c'était gros ce qui se passait à Grêmby, c'est peut-être un avant-goût de ce que vous allez voir. Moi, je ne serais vraiment pas surpris de voir Leila à Grêmby cet été.
Ouais, puis les gars, imaginez aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué en fin de match ou si vous avez été vous coucher, là, à quel point Leila a pris le temps de prendre des photos avec tous les partisans qui avaient son visage, des T-shirts ou des pancartes, et il y en avait... beaucoup en première rangée, des jeunes, des vieux, des filles, des gars. Elle a pris le temps de prendre le téléphone de chaque personne, de prendre un selfie avec elle. Donc, imaginez ce qu'elle fera à Grêmby si jamais elle s'y présente et si elle peut se rendre loin dans le tournoi. Elle est mieux d'amener un lunch parce que je pense qu'elle va être là longtemps pour prendre des photos puis signer des autographes.
Tu fais bien de le dire. Messieurs, bon, il y a Leila qui a performé en fin de semaine. Il y en a une autre aussi, une autre Canadienne qui a remporté un autre titre. Peut-être que les gens n'ont pas vu ça, mais on parlait à Isa Junot la semaine passée qui était avec Rebecca Marino. Ben, le duo a encore fait des flamèches parce que Rebecca elle a remporté un tournoi en Californie. C'est un tournoi ITF, c'est quand même un tournoi particulièrement intéressant. C'est le fun d'avoir Rebecca terminer avec le trophée. Là, et puis elle ajoute encore à sa belle histoire.
Oui, puis quel début de saison, Alex. Là. Elle est 15 victoires et 4 défaites, Rebecca, en début de saison là, 2022. C'est un sacré beau début de saison. Elle pointe cette semaine au 123e rang mondial. Donc, elle est sur le point de se qualifier pour les tableaux principaux de Grand Chelem, sans passer par les qualifs. Donc, bravo, Rebecca Marino. Cette belle histoire se poursuit en 2022.
Exact. Nico, commentaire?
Ben, je veux dire, on répète un peu la même chose à chaque fois que Rebecca connaît du succès. C'est tellement mérité. C'est juste ça que j'ai envie de dire. Elle monte au classement, son jeu s'améliore. Puis là, Alex, je ne veux pas prendre ton rôle d'animateur, mais pour faire un lien avec ce qui s'en vient, à la Coupe Billie Jean King, ce sera une équipe tout feu, tout flamme qui sera là. Avec Marino, avec Dabrowski, avec Fernandez aussi qui sera là. On en parlait un petit peu avant d'entrer en onde. Si Bianca avait été là, ce serait encore plus intéressant. Mais l'équipe, je pense, qu'on a présentement... avec l'équipe canadienne, toutes des filles qui connaissent du succès. Il n'y a personne là-dedans qui est à plat présentement. ce sera vraiment intéressant. Puis Rebecca aussi, mine de rien, les gars, c'est elle qui a le plus d'expérience. Fait que oui, elle a ses qualités d'athlète, ses qualités de joueuse de tennis. Mais je suis convaincu que dans le vestiaire, entre les points, avant, après les matchs, elle est un élément hyper, hyper important pour ces jeunes joueuses-là qui apprennent oui. le métier, qui apprennent à jouer dans des compétitions d'envergure comme celle-là. Donc oui, l'impact de Rebecca est important dans les matchs, mais je pense aussi que dans une compétition comme la Coupe Billie Jean King, elle sera d'autant plus importante.
C'est certain qu'elle est un appui de taille pour la capitaine Heidi El-Tabak. Donc oui, oui, Rebecca, c'est un bonus de l'avoir à ce niveau-là dans l'équipe en ce moment.
4 victoires, 5 finales en 7 tournois pour le duo Isagino et Rebecca Marino. Difficile de demander mieux. Pour une fille, plutôt que plus tard, j'ai l'impression qu'on va la revoir dans des gros tournois. Là. C'est la façon de le dire. Nico, tu parlais de la Billie Jean King tantôt. On va en parler un peu plus tard. On va faire une courte pause au retour. On va justement parler des compétitions par équipe. La Coupe Davis qui se jouait aussi en fin de semaine. Et on va regarder ce qui s'en vient du côté de la Billie Jean King Cup. On en parlait avant la pause, il y avait une autre compétition qui se jouait la semaine passée, compétition prestigieuse. On avait, disons-le comme ça, l'équipe B à la Coupe Davis. On savait que ça allait être compliqué contre les Pays-Bas qui avaient quand même beaucoup de joueurs bien classés. Mais le Canada, en dépit de sa défaite assez sèche, a quand même pas si mal paru. D'ailleurs, Alexis Galarneau a très bien fait dans son match. Il était très content de jouer. Je sais que lui, c'était un de ses rêves de pouvoir jouer à la Coupe Davis. Je lui avais parlé avant la Coupe Davis, il m'avait dit « J'espère vraiment pouvoir jouer. » Ça a été le cas. Il a vraiment pas mal paru, Alexis Galarneau.
Oui, il a bien paru. Et ce que j'ai le plus apprécié, mais bon, sur le plan tennistique, là, ça n'a pas été un grand tournoi pour l'équipe canadienne. Tu l'as dit, Alex, on s'y attendait dans une certaine mesure, mais c'est l'esprit de corps et la chimie de cette équipe-là. On l'a vu notamment sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter. Les gars avaient l'air de s'amuser. Il faut le dire, ce n'est pas des gars du calibre de Félix ou de Denis encore, mais le simple fait qu'ils apprécient l'expérience, qu'ils puissent prendre cette expérience, parce que qui sait dans un futur non si lointain si Alexis Galarneau ne pourrait pas un jour participer à la TPK, par exemple. Donc, c'est le genre d'expérience qui pourrait le nourrir. Il a eu du plaisir. Alexis, on le sait, c'est un bon ami de l'émission. Je pense qu'il a profité pleinement de cette expérience-là. Puis tu l'as dit, il s'est très, très bien débrouillé dans un match très serré d'entrée de jeu dans cette coupe. Qui est prestigieuse, qui est sur terre battue aussi, qui n'est pas donné à tout le monde aussi. Pour commencer l'année comme ça, ce n'est pas évident. Donc, chapeau à l'équipe canadienne, même si ça n'a pas été faramineux là, sur le plan des points ou des victoires. Je pense que l'expérience acquise aurait été non négligeable.
Il a fait un 7-5 et 7-6, un bris d'égalité contre Van de Zandschulp, qui est top 50. Là, alors, vraiment pas à rougir de sa performance. On parlait d'Isagino, je lui ai parlé hier, puis je parlais d'Alexis, puis je disais, de la façon dont il joue, Alexis, là, plutôt que plus tard, il va se retrouver dans le top 100, puis il m'a répondu 100% sûr.
Ah oui. Puis j'ai eu une petite discussion avec son coach, notre ami Robbie Ménard, en soirée hier, puis je lui ai dit, écoute, il peut vraiment être fier de sa performance, là, quand même. Van de Zandschulp, tu l'as dit, top 50, 7-5, 7-6, c'était vraiment, vraiment serré. Et ce que Robbie me disait, c'est que ce qui est bon, c'est qu'il continue de progresser. Là. Ce qu'on a vu, c'est un résultat, mais qui n'est pas une finalité. Là, c'est une étape vers autre chose encore pour Alexis. Donc, il y a vraiment un beau parcours devant lui et je pense qu'on va le revoir en Coupe Davis assurément. Et on a un joueur qui se dirige vers le top 100. J'ai envie de dire un autre Canadien qui s'en va vers le top 100 en ce moment pour Alexis, qu'on adore à l'émission d'ailleurs. Donc, j'étais vraiment content de l'avoir performé comme ça. Et c'était pas une mauvaise Coupe Davis, mais effectivement, on n'avait pas notre première équipe. Mais les gars ont fait une bonne performance quand même. Il y a beaucoup de positifs à en retirer. Par contre, je vais faire un point et je pose une question aujourd'hui. Je pense pas qu'on va avoir une réponse, mais la question se pose entre l'ATP Cup et la Davis Cup. Quel devient le tournoi numéro un par pays? Donc, je mets ça sur la table, on pourra en parler plus tard, mais c'est évident qu'on voit que la composition des équipes peut soulever certaines questions là, au fil de l'année. Donc, il y a maintenant un concurrent à la Coupe Davis avec l'ATP Cup.
Ce que j'allais dire, c'est que on en a parlé mille et une fois. Je pense que le problème, c'est le format. Et si on pouvait comparer, l'ATP Cup, ce serait comme la Coupe du monde de soccer. Puis la Coupe Davis, ce serait comme la Ligue des champions. Un peu comme on voit présentement avec le CF Montréal, où tu as des matchs qui sont disputés aux deux semaines, au mois, ou six mois, ou trois mois. Donc, c'est plus dur à suivre. Je pense que la Coupe Davis a ce côté mythique, ce côté historique qui est plus prompt à intéresser les gens. Mais le calendrier, le format et la position aussi dans l'horaire est plus favorable, je pense.
C'est le principal problème. C'est le principal problème.
Exact.
C'est la façon dont il est joué dans le format. C'est pas la coupe en tant que telle. Ce ne sont pas même les finales comme telles de la Coupe Davis qui sont le problème. C'est le fait que, bon, c'est ça, tu sacs un match de qualification entre un Grand Chelem et Indian Wells, alors que les joueurs vont probablement se reposer. La Coupe ATP, elle est beaucoup mieux placée dans son format, c'est-à-dire en début de saison, qui s'avère un espèce de tournoi préparatoire, mais dans lequel les joueurs vont quand même y mettre, mettre la pédale au plancher parce qu'il y a un certain prestige à gagner cette compétition-là. On l'a vu cette année avec les Canadiens. Mais comme tu le dis, on en a parlé assez régulièrement, je pense. Que le principal format, le principal problème, c'est sa place dans l'horaire et de la façon dont il est joué au courant de l'année.
Oui, puis n'oubliez pas aussi qu'il y a deux associations, donc l'ITF qui est promoteur, organisateur de la Coupe Davis, qui est le grand tournoi par équipe historique, là, on s'entend là-dessus, et l'ATP qui font aussi valoir leurs intérêts, leur promotion dans la gestion de ces événements-là. Donc on a deux partenaires, mais qui sont aussi concurrents dans la promotion du tennis là, et dans la présentation d'événements. À suivre.
Exact. Donc, je le répète, défaite de 4-0 pour le Canada. C'était à prévoir. Il ne faut pas être trop déçu dans cette défaite-là. Je veux dire, il n'y a rien de vraiment surprenant. C'était pas mal ce à quoi on s'attendait. Le fait que c'était sur terre battue, c'était également au désavantage du Canada en fonction de l'équipe. Il y avait disons, Steven Diaz qui était surtout à l'aise, qui joue plus sur terre battue parce qu'il s'entraîne beaucoup en Europe. Sur surface dure, ça aurait peut-être été différent. Et qui sait, si Alexis gagne le premier match, ça change peut-être toute la dynamique du reste du match-up, comme on dit, parce que bon, là, tu as 1-0 Canada. Peut-être qu'il y a des matchs qui sont un peu plus sur la ligne. Enfin, j'en sais rien, on ne le saura jamais. Mais c'est très possible. Alors, ça va compliquer la vie pour le Canada, mais avec les ressources qu'on a et la profondeur qu'on a, on va revenir assez rapidement dans cette compétition-là. Dans les meilleures équipes sur l'échiquier mondial, ça c'est certain. Parlant de meilleur au monde, je veux parler de Serena Williams qui est sortie publiquement. Elle n'a pas fait beaucoup d'entrevues où elle a parlé de tennis, enfin à ma connaissance, dans les dernières semaines, messieurs. Serena est revenue sur l'affaire Zverev en disant « Si c'est moi qui l'avais fait, je serais presque en prison. » D'accord ou pas, messieurs, avec ça?
Oui, je pense qu'elle a bien fait de sortir parce que le comportement de Zverev pose de plus en plus problèmes. La façon, pour ceux qui s'en souviennent pas, il a, dans un match il y a deux semaines, été très mécontent sur quelques appels de l'arbitre. Le match s'est terminé avec des coups de raquette de Zverev sur la chaise de l'arbitre. Encore une fois, j'ai jamais vu un truc pareil, là. Souvent, on casse une raquette sur le terrain ou sur son banc, mais pas sous les pieds de l'arbitre. Donc Zverev a eu une amende de 40 000 $ et est exclu du tournoi. Serena, est-ce qu'il y a deux poids, deux mesures?
Écoute, ça, je suis pas sûr.
Mais... Je ne sais pas. Je le sais honnêtement. Moi aussi, je pense que la pénalité a été correcte pour Zverev. Je pense qu'il mériterait autre chose qu'une seule suspension du tournoi qui jouait à ce moment-là. Et ça repose d'autres questions sur l'enquête que l'ATP est censée mener là, dans les allégations de violence conjugale. Donc, il y a beaucoup d'éléments autour de Zverev en ce moment là, qui posent question. Et visiblement, ce n'est pas réglé encore dans sa tête, cette propension à péter les plombs un peu, là.
Ouais, je sais pas si vous avez vu, Mats Wilander est sorti, ouais. Il a carrément demandé une espèce de réhabilitation là, pour Zverev, là, sans révéler tous les détails. Quand un gars qui connaît le tabac comme Mats Wilander qui sort publiquement pour dire une chose comme ça, je sais pas, mais ça fait mal paraître Zverev. Je sais pas ce que vous en pensez. Là.
Ben moi, ce que j'ai aimé, puis pour revenir à l'entrevue de Serena, là, c'est que je pense qu'elle a pas perdu beaucoup de fans, mais je pense qu'elle a perdu. Au cours des dernières années, Serena, lorsqu'elle s'est fâchée sur le terrain, parce qu'on la sait, c'est une fille qui est compétitive, là, c'est une fille qui est bouillante, elle a été très, très fâchée, très expressive. Rappelez-vous, lorsqu'elle a dit à un arbitre que c'était inégal, qu'elle trichait parce que c'était elle, j'ai trouvé dans l'entrevue très posé, plus réfléchi, plus relax. Et je pense que son message passe mieux que lorsqu'elle pète les plombs. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'un point de vue télévisuel, marketing, de la réalisation, mais je trouve que son propos passe mieux lorsqu'elle ne pète pas les plombs, lorsqu'elle est sincère, lorsqu'elle est terre à terre, puis lorsqu'elle expliquait Zverev, lorsqu'elle expliquait le fait qu'elle aurait pu avoir 30 ou 32 titres Grand Chelem. Bien sûr que ce sont des images lorsqu'elle dit qu'elle aurait été en prison, certainement pas. Mais le fait que je ne sais pas ce qui s'est passé au cours des derniers mois, mais j'ai trouvé plus posé, puis je pense que ça aide à faire passer son message.
Ben, c'est certain qu'elle a un peu de recul aussi maintenant. Elle est maman aussi, donc bon, elle prend en maturité, mais faut pas oublier qu'elle a déjà dit à un juge de ligne, donc elle n'était pas contente, qu'elle était pour faire avaler une balle. Donc, elle est capable aussi d'être assez abrupte sur un terrain. Mais encore une fois, on parle de deux cas différents. Je pense que ce qu'elle a eu comme traitement a toujours été fair. Je pense qu'elle aurait peut-être pas fait ce que Zverev a fait non plus, mais je pense que Zverev, encore une fois, étant une des stars du circuit, malheureusement, j'ai l'impression que l'ATP est un peu, disons, accepte beaucoup de choses de Zverev en ce moment. Puis je pense que l'histoire n'est pas terminée, mais je pense que les chances qu'on lui donne en ce moment, il faut qu'il en prenne partie, parce qu'à un moment donné, ça va lui revenir au visage ce qu'il fait.
Mais là, Hugues, moi, j'ai une question pour toi. Ça fait 3 semaines qu'on pose à peu près la même question, mais là, on voit Peugeot qui laisse aller Novak Djokovic.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe avec les commentaires de Zverev? Comment ça se fait qu'on est si patient?
Parce qu'il n'y a pas eu, encore une fois, de condamnation. N'oublie pas qu'au niveau de l'enquête de l'ATP, c'est des allégations. Il n'y a pas eu de plainte à la police. On ne va pas refaire tout le dossier. Mais bon, tant qu'il n'y a pas de preuves, OK. Après, ce qui s'est passé au niveau de son pétage de plomb l'autre fois, ben pour un commanditaire, il va dire OK, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais je pense que pour Adidas et pour Ed, en ce moment, ils doivent suivre le dossier de très près. Parce que, encore une fois, on peut pas se comporter comme ça, c'est la marque qui le commandite qui vit avec les répercussions de ça aussi. Quand les images font le tour du monde, on voit sa raquette Ed, on voit ses vêtements Adidas, donc je pense que le commanditaire suit ça de très près. Mais bon, je pense qu'ils sont prêts à en laisser passer une coupe parce que Zverev, encore une fois, est dans le top 5 mondial, puis est un joueur qui est extrêmement payant pour Adidas en ce moment encore.
En tout cas, oui, il est payant, mais je t'avoue que, tu sais, moi, j'aime beaucoup le regarder jouer sur le terrain parce que c'est un joueur brillant, mais ça devient de plus en plus difficile d'être fan de Zverev. Honnêtement, là, c'est puis là, je parle avec mon cœur de partisan, là, pas avec celui d'ancien journaliste. J'aurais de la misère à être content pour lui s'il gagnait un grand chelem, je pense. J'aurais un petit goût amer, tu sais.
Oui, c'est certain qu'il a perdu beaucoup de capital de sympathie. La couche de vernis Zverev est vraiment craquée depuis quelques mois là. Puis encore une fois, je pense qu'il y a une pente à remonter. Puis je pense qu'il peut pas faire comme si ça n'existait pas ce qui se passe là. Il y a un vrai problème. Donc on verra comment il va se comporter dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais le vernis du beau gars, grand champion, jeune allemand, tout est possible. Ben tout d'un coup là, c'est moins parfait que c'était il y a quelques mois, assurément.
Il a intérêt à pas faire trop de vagues, Alexander Zverev, en tout cas dans les prochains mois, parce que, bon, lui, on dirait qu'année après année, il rajoute des couches. Et, en tout cas, comme je disais, ça devient difficile d'être fan. Bon, ici, on va faire une courte pause. Au retour, entrevue avec Julie Gravel, directrice du marketing à Tennis Canada. Elle vient nous parler du jeu des prédictions de Tennis Canada. Très content aujourd'hui de recevoir la directrice, est-ce que c'est le terme exact, directrice du marketing à Tennis Canada, Julie Gravel. Merci d'avoir accepté l'entrevue sur la ligne.
Ça fait plaisir, merci à vous de m'inviter.
Écoute, si on t'a invité, c'est parce que vous avez eu une initiative pour laquelle moi, je suis bien excité parce que je suis un fan de pool, puis je suis bien content que vous ayez parti ce projet-là. C'est le projet du jeu des prédictions que vous aviez testé d'une certaine manière au dernier Omnium Banque Nationale parce que vous l'avez fait. Mais écoute, je vais te laisser expliquer le projet, puis après ça, on tombera sur pourquoi moi, ça me fait triper ce projet-là. ça consiste en quoi, puis ça part de où, toute cette idée-là?
Oui, en fait, essentiellement, c'est un jeu de prédiction, un peu comme qu'on voit avec le fantasy hockey ou peut-être le March Madness aussi qu'on voit ou qu'on va voir récemment. C'est essentiellement remplir le tableau puis de prédire qui va être le gagnant. Donc, prédire chaque ronde et prédire éventuellement le champion ou la championne. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on avait testé pendant le tournoi depuis 2016, si je ne me trompe pas. Puis, on voyait justement un certain engouement. On voyait des gens qui aimaient parier ou qui aimaient justement suivre un peu les matchs à travers le tournoi. Puis on était comme, bon, ben tiens donc, c'est peut-être un moyen justement de garder certains fans engagés tout au long de l'année. Puis justement, tu sais, d'avoir un peu ce lien-là pour que les fans puissent découvrir aussi différents joueurs et joueurs. Je pense que c'est ça un peu qui est le fun avec le Bracket Challenge, c'est que tu regardes en fait des matchs que t'aurais peut-être pas nécessairement eu un intérêt de regarder, mais là, ce match-là, comme faut que Georgie le gagne si justement tu veux faire la différence dans le classement. Donc ouais, l'idée est venue de là. Écoute, c'est pas une idée nouvelle non plus. Là, l'ATP avait lancé ce genre d'initiative dans le passé, là, au début des années 2010, je pense, si je me souviens bien. Puis un peu comme toi, là, j'étais vraiment accro à ce genre de jeu-là. Donc, j'avais participé. Je tiens même à dire que j'avais été, je pense, septième dans un des tableaux sur comme 1000 quelques personnes. J'avais pris un print screen dans le temps, bref. Donc, c'est ça un peu. Il avait testé sur le marché. Ça avait bien répondu aussi. Donc, on veut juste justement avoir ce genre de plateforme-là pour que les gens puissent suivre les tournois majeurs à travers l'année. Puis qu'un coup, justement, bon, ben indirectement rendu à l'Omnium Banque Nationale, il y a un certain intérêt aussi grandissant avoir notre tournoi.
Et là, ben, écoute, qu'est-ce qu'on peut gagner au-delà d'avoir le respect de ses amis pour avoir fait des prédictions et gagner des points? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut gagner pour en participant à ce jeu-là? Parce qu'il y a quand même des prix, là.
Oui, il y a quand même des prix. C'est sûr que le respect, ça, c'est le prix numéro un.
C'est vrai.
On a des prix par tableau, on a des prix par tournoi. Donc, on fait évidemment tous les Masters 1000 de l'ATP et les événements 1000 de la WTA. Donc, il y a des prix pour chaque tableau. Donc, pour le gagnant de chaque tableau, c'est de la marchandise officielle de Tennis Canada d'une valeur de 150 $. Puis pour le gagnant, le grand gagnant et ou la grande gagnante à la fin de l'année, ça va être une raquette signée par soit Tsitsipas ou Leila, dépendamment justement de si vous avez gagné le leaderboard finalement de l'ATP ou de la WTA. Puis c'est sûr qu'à travers aussi tous les tableaux que vous remplissez, on cumule des badges au fil des tableaux, donc au fil du jeu. Puis ça, justement, c'est un élément qu'on a développé avec à l'interne. Puis l'inspiration, en fait, vient de l'application Nike. Plus tu cours, plus tu cumules des badges. Puis on trouvait cette portion-là du gamification assez intéressante. Les badges qu'il y a là pour l'instant sont bonnes, là, sont de base, mais on a des idées aussi pour garder les gens encore plus engagés et encore plus stimulés.
Et donc là, si je comprends bien, si on veut pouvoir avoir une raquette qui est quand même pas banale, signée par Tsitsipas et Leila Fernandez, ce ne sont pas les derniers venus, disons-le comme ça, il faut participer à chaque tournoi parce que sinon, vos chances sont pas mal plus minces de pouvoir gagner le pool. Est-ce que je comprends bien?
Exactement. Je pense qu'à moins d'avoir eu tout bon dans un des tableaux, on peut faire peut-être l'impasse sur le prochain, mais le but justement, c'est de participer à chaque tableau, puis c'est là qu'on est capable de cumuler des points aussi au fil de l'année.
OK, là, Julie, j'ai une question pour toi. Bon, oui. On a parlé des tournois de niveau 1000, si on peut le suivre à toute la saison. Est-ce qu'éventuellement, on peut peut-être espérer jouer les tournois du Grand Chelem également dans ce jeu-là?
Écoute, ça serait le fun, ça serait l'idéal, puis on espère vraiment justement avoir une conversation avec eux. La seule différence avec les Masters Mills, c'est qu'il fallait aller voir les grands chelems individuellement justement pour leur demander la permission et leur propriété intellectuelle pour aller chercher les pointages, les résultats. Ils font pas partie de l'ATP puis de la WTA, c'est vraiment des entités à part. Donc, pour pas ralentir justement la plateforme, on voulait quand même lancer la plateforme avec tous les tournois ATP et WTA de niveau 1000. Mais ceci étant dit, la porte n'est pas fermée. On peut peut-être espérer justement aller les chercher, peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine. Mais ce que je dirais aussi, c'est de vraiment porter attention sur d'autres tournois qui pourraient s'en venir. On serait peut-être capable justement d'aller chercher des tournois comme Halle ou Londres, justement, qui se jouent sur gazon puis qui sont toujours des tournois assez relevés aussi. Donc, à voir.
Bon, mais wow, j'aime quand même l'enthousiasme. On sent déjà que vous travaillez sur le projet. Est-ce que peut-être on pourrait aussi envisager un tournoi comme les championnats Banque nationale de Granby aussi, même si c'est pas un Masters 1000?
Ça serait super intéressant, oui, pourquoi pas. C'est un WTA 250 aussi, on vient de l'annoncer récemment. Donc, je pense aussi que ça va être des tableaux qui vont être assez relevés, assez intéressants aussi de suivre. Et pourquoi pas aussi de jouer un peu sur ces tableaux-là et de prédire le champion ou la championne future plutôt.
Est-ce que la logistique de ce projet-là a été compliquée à mettre en place? Bon, vous aviez fait des tests, c'est-à-dire l'ATP aussi avait déjà réalisé ce genre de projet-là. Est-ce que ça a été compliqué pour Tennis Canada de mettre en branle ce projet-là?
Ça a été compliqué à cause de la pandémie. C'est sûr que ça a ralenti un peu nos ardeurs. Mais je dirais que c'est depuis 2019 qu'on commence à en parler sérieusement. Puis un coup, justement, qu'on a vraiment déposé notre projet à l'interne, qu'on a eu l'aval aussi de notre équipe de finances, parce que c'était quand même un peu coûteux de développer cette plateforme-là. Ça a pris un bon 2 ans à développer, là, pour être sûr, justement, qu'on avait l'amont des circuits. On utilise évidemment des noms aussi des tournois, donc on voulait être sûr qu'on était coacher aussi d'un point de vue... d'un point de vue légal, là, on voulait pas non plus être positionné comme du gambling, là, c'est pas ça du tout, là, c'est vraiment juste un jeu. Puis évidemment, on voulait aussi avoir l'intérêt d'un partenaire comme Banque Nationale pour pouvoir s'associer à ce jeu-là, puis être fier aussi de la plateforme. Donc, il y avait différentes étapes évidemment à franchir avant que cette plateforme-là voie le jour.
Wow, OK. Ben, c'est vraiment un projet beaucoup plus ambitieux que ce que ça peut avoir l'air a priori. En
c'est
tout cas,
toujours le cas.
Même moi, oui, ça c'est vrai. Souvent, mais je suis quand même assez surpris. Mais en tout cas, le résultat est excellent, ça, je peux vous dire ça. Tu sais, je trouvais que pour en faire beaucoup, beaucoup de sites étaient assez friendly user, mais des fois pas super beau visuellement. Je trouvais que c'était une des qualités qui manquait. Puis même encore des fois, tu sais, participer à des groupes ou envoyer des liens, ça pouvait être compliqué. Là, on s'inscrit, puis on clique sur le tableau et c'est d'une simplicité assez remarquable. Puis je dis vraiment pas ça pour vous flatter dans le dos. Là, c'est vraiment super friendly user et c'est super beau. Je peux montrer un peu peut-être la plateforme. Là, on voit déjà des choix corrects et des mauvais choix que j'ai fait dans le premier
t'es
tableau.
T'es rendu combien là, pour le fun?
J'ai pas vérifié, mais parmi les podcasteurs, j'étais le premier, dernière nouvelle. Alors, c'est ce qu'on doit retenir dans cette première impression. Mais voyez, le tableau, il est super beau. Et avant de te laisser partir, Julie, j'ai une question parce que, écoute, moi, j'en ai cherché des fois. Il fallait fouiller pour trouver des sites de pool de tennis. Est-ce que c'est une première pour un tournoi de faire un suivi à l'année longue presque? Parce que dans le fond, ce sont tous les tournois de niveau 1000 hommes-femmes. À ma connaissance, il n'y a pas eu beaucoup d'expériences de ce genre-là. Est-ce que c'est une première?
Non, c'est ça. Je pense que c'est, écoute, à moins que je me trompe, là, puis selon mes recherches aussi, là, je pense qu'on est la première fédération à mettre ça de l'avant. Puis c'est ça aussi qu'il fallait avoir l'amont aussi des circuits là, pour être sûr qu'on était correct avec eux, avec leur propriété intellectuelle aussi, avec tous les points ou le feed qu'on tire vers nos plateformes. Donc ouais, je pense qu'on est les premières ou la première fédération à le faire, là, ce qui est quand même assez le fun aussi, puis ça démontre un peu le côté innovateur de Tennis Canada là, de nous faire confiance pour ce genre de plateforme-là, puis d'aller de l'avant un peu et de briser les barrières que normalement on retrouverait pas nécessairement dans le milieu tennistique.
Ben, c'est vraiment un beau projet, honnêtement, puis je suis le premier à vouloir participer. Là. Dès que j'ai vu les premières promos, j'étais déjà inscrit. Puis j'encourage les gens à faire la même chose parce que c'est vraiment un beau projet. Ça permet aussi, de, comme je disais, des fois d'analyser les tableaux pas mal de façon un peu plus précise que ce qu'on aurait fait autrement. Puis de suivre de plus près aussi nos Canadiens, tu sais, de voir okay, qui vont affronter, qui pourrait avoir sur leur parcours. C'est une façon belle fun aussi de suivre de plus près nos Canadiens, puis aussi, de, comme on le disait en entrée, de gagner le respect de nos amis pour vos connaissances tennis et vos prédictions, bonnes ou moins bonnes, et c'est le plaisir de pouvoir jouer.
Oui, c'est certain. Puis si je peux rajouter là-dessus, je pense que justement, les gens vont apprécier découvrir des joueurs que potentiellement, ils n'auraient peut-être pas nécessairement vu ou porté attention sur certains de ces rencontres-là. Donc, c'est ça la beauté aussi avec le jeu des prédictions. On apprend à connaître des joueurs, puis on a des joueurs fétiches qui, un coup, qui a le nom Banque nationale, bien, crime, on est capable de les voir peut-être sur le court 2. Ce qui commence à être vraiment intéressant, là, puis à sortir un petit peu du top 10. Il y a des super belles histoires aussi qu'on peut découvrir.
Ben Julie, merci infiniment d'avoir accepté l'entrevue. On ne te gardera pas plus longtemps. Reviens nous parler s'il y a des updates sur ce projet-là. Ça va nous faire plaisir de pouvoir en parler. Et puis, comme fan de tennis, je tiens sincèrement à vous remercier parce que j'ai déjà bien du fun avec ce projet.
Ah, c'est super, Alex. Merci beaucoup. Puis, continue à participer. J'ai hâte de te voir dans le top 10 de ce classement-là.
C'est l'objectif numéro 1.
OK, ça marche. Merci.
Merci. Bye-bye. Merci beaucoup à Julie Gravel pour son temps avec nous. Nous, cette semaine, nous allons faire nos choix pour Indian Wells. On n'a pas encore de date, on n'a pas encore d'heure exactement, mais on risque de le faire comme on le fait à l'habitude en version live. À tout le moins, moi et Hugues et Nico a laissé entrevoir la possibilité de venir faire ses choix avec nous. Je vous invite également, vous aussi, à venir faire vos choix avec nous. On va le faire en direct sur la plateforme des jeux et des prédictions. Ça va être bien amusant, comme c'est le cas à l'habitude. On va faire hommes et femmes en vue de Indian Wells. Messieurs, c'est ce qui complète l'émission. Et comme c'est la tradition, ben Nicolas, Richard, je te donne le mot de la fin.
Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis tout le monde.